Vous écoutez, on lit pour vous.
Un agent aérosol pourrait transformer le traitement du cancer du poumon en ciblant les tumeurs directement. Un texte d'Oriane Polge, paru le 16 février 2026 dans Science et Vie. Testée chez des patients atteints de cancer pulmonaire avancé, cette approche expérimentale vise à renforcer l'immunité directement dans l'organe malade. Les premiers essais montrent des réductions de tumeurs et une stabilisation de la maladie chez plusieurs participants avec des effets secondaires limités. Traiter un cancer du poumon reste un défi médical majeur, malgré les progrès de l'oncologie moderne. La difficulté ne tient pas seulement à l'agressivité de la maladie, mais aussi à l'accès limité des traitements aux tissus pulmonaires. Une nouvelle approche propose de contourner cet obstacle en utilisant l'air lui-même comme voie thérapeutique avec une stratégie qui agit directement au cœur des lésions. Atteindre les poumons reste le principal défi des traitements anticancéreux. Le cancer du poumon demeure la forme la plus meurtrière dans le monde, en partie parce que les médicaments administrés par voie orale ou intraveineuse peinent à atteindre efficacement les tissus ciblés. Une fois dans la circulation sanguine, les molécules se dispersent dans tout l'organisme et seule une fraction atteint réellement les zones tumorales. Cette diffusion imparfaite limite l'efficacité des traitements tout en augmentant les effets secondaires systémiques. Les chimiothérapies et certaines immunothérapies doivent être administrées à des doses élevées pour compenser cette perte de concentration au niveau des poumons. Les tumeurs pulmonaires présentent également un environnement biologique complexe qui freine l'action des traitements. Les cellules immunitaires y deviennent souvent moins actives, ce qui réduit la capacité naturelle du corps à contrôler la progression de la maladie. Ces contraintes expliquent pourquoi les chercheurs cherchent désormais à privilégier des approches locales capables de délivrer l'action thérapeutique directement dans l'organe touché sans passer par l'ensemble de la circulation. La thérapie génique inhalée permet d'agir directement au cœur des lésions. La thérapie génique inhalée repose sur un principe simple mais inédit en oncologie. Le traitement est transformé en fine brume grâce à un dispositif de nébulisation, puis respiré par le patient afin d'atteindre directement les cellules pulmonaires. Cette brume contient un virus modifié rendu inoffensif, chargé d'introduire dans les cellules deux gènes codants pour les cytokines interleukine 2 et interleukine 12. Ces molécules jouent un rôle clé dans l'activation des lymphocytes et la stimulation de la réponse immunitaire contre les tumeurs. Les cancers pulmonaires parviennent souvent à réduire la production naturelle de ces signaux immunitaires. En restaurant leur synthèse au niveau local, la thérapie cherche à réactiver les défenses directement dans l'environnement tumoral. Des travaux publiés dans Nature Communications ont montré que l'interleukine 2 joue un rôle central dans la restauration des lymphocytes T épuisés, un phénomène fréquent dans les tumeurs. En renforçant ce signal au bon endroit, il devient possible de relancer une réponse immunitaire durable sans exposer l'ensemble de l'organisme à des doses élevées. Cette approche marque un changement de logique. Plutôt que de cibler uniquement les cellules cancéreuses, elle transforme le tissu environnant en un acteur actif de la lutte contre la maladie. Des premiers résultats cliniques qui ouvrent la voie à une validation accélérée. Depuis 2024, les équipes médicales testent cette stratégie chez des patients atteints de cancer avancé qui ont épuisé les options thérapeutiques classiques. Les résultats préliminaires présentés lors d'un congrès de l'American Society of Clinical Oncology montrent une réduction de la taille des tumeurs chez 3 patients sur 11 et une stabilisation de la maladie chez 5 autres, comme l'a rapporté le magazine New Scientist. Les effets indésirables observés restent généralement modérés et transitoires, avec des symptômes tels que frissons ou nausées, sans signal de toxicité grave. Ce profil de tolérance constitue un élément important pour une approche destinée à des patients fragilisés. Ces données ont conduit l'Agence américaine du médicament à accorder au traitement un statut permettant d'accélérer son développement et son évaluation. Des essais plus larges sont désormais prévus afin de confirmer l'efficacité sur un plus grand nombre de participants. L'approche présente toutefois une limite claire, puisqu'elle cible uniquement les tumeurs localisées dans les poumons et non les métastases à distance. Pour élargir son potentiel, les chercheurs testent actuellement son association avec des immunothérapies et des chimiothérapies dans des études impliquant plusieurs centaines de patients, avec l'objectif de renforcer l'effet antitumoral tout en conservant l'avantage d'une action locale. C'était « Un agent aérosol pourrait transformer le traitement du cancer du poumon en ciblant les tumeurs directement ». Un texte d'Oriane Polge, paru le 16 février 2026 dans Science et Vie.
Nommer notre époque, un mot à la fois. Un texte d'Éric Bergeron, publié le 13 janvier 2026 dans La Voix acadienne. La langue française n'est pas figée. Elle évolue selon les besoins et celles et ceux qui l'emploient. Elle prend souvent racine dans le langage courant avant de se formaliser avec le temps. Des dictionnaires comme le Petit Robert, le Petit Larousse jouent un rôle déterminant dans ce processus en observant l'usage réel avant d'enregistrer officiellement les nouveaux termes. Cette année encore, notre langue s'est enrichie d'une myriade de nouveaux mots venus préciser les enjeux de notre époque. Les préoccupations sociales, environnementales et culturelles ont mené le bal. Certains, plutôt surprenants, sont venus s'ajouter à d'autres qui se sont imposés de façon tout à fait naturelle, tant ils font déjà partie du quotidien. Il est intéressant de noter que le Petit Larousse et le Petit Robert ont tous deux adopté environ 150 nouveaux mots cette année. Cependant, leurs listes ne sont pas identiques et reflètent les choix propres à chaque équipe éditoriale. En voici un aperçu. Agrivoltaïsme. Production d'électricité solaire sur des terres agricoles en combinant culture et panneaux photovoltaïques. Dictionnaire Le Petit Robert. Périménopause, période de transition hormonale précédant la ménopause, marquée par des cycles irréguliers et divers symptômes. Dictionnaire Le Petit Larousse. Débunker, personne qui démontre ou réfute des informations fausses ou trompeuses, souvent en ligne. Dictionnaire Le Petit Robert. Micromobilité, ensemble des moyens de transport léger, souvent électriques, utilisés pour de courts déplacements urbains. Dictionnaire Le Petit Larousse. Climaticides, qui contribuent gravement au dérèglement climatique, notamment par des émissions massives de gaz à effet de serre. Dictionnaire Le Petit Robert. Précarité menstruelle, situation dans laquelle une personne n'a pas accès aux protections menstruelles pour des raisons financières ou sociales. Dictionnaire Le Petit Larousse. Deepfake, contenu audio ou vidéo truqué à l'aide de l'intelligence artificielle, donnant une illusion de réalité. Dictionnaire Le Petit Robert. Haptique, relatif au toucher ou aux technologies qui simulent des sensations tactiles. Dictionnaire Le Petit Larousse. Démission silencieuse, fait de se limiter strictement à ses tâches professionnelles sans engagement excessif. Dictionnaire Le Petit Robert. Ban Bao, petit pain vietnamien cuit à la vapeur, généralement farci de viande ou de légumes. Dictionnaire Le Petit Larousse. Urbex, pratique consistant à explorer des lieux urbains abandonnés ou inaccessibles au public. Dictionnaire Le Petit Robert. Onigiri, boulette de riz japonaise, souvent garnie et enveloppée d'algues. Dictionnaire Le Petit Larousse. C'était « Nommer notre époque, un mot à la fois ». Un texte d'Éric Bergeron, publié le 13 janvier 2026 dans La Voix acadienne.
Gestion des déchets, le pari de la Gaspésie. Un texte d'Éric-Pierre Champagne, paru le 25 janvier 2026 dans La Presse. En Gaspésie, les résidents qui rempliront leur bac à ordures plus de 20 fois par année paieront dorénavant une taxe supplémentaire. Une mesure jugée incontournable qui pourrait inspirer d'autres municipalités alors que les sites d'enfouissement débordent et que les coûts de gestion des déchets explosent. En 5 ans, la facture pour construire de nouvelles cellules d'enfouissement des déchets a bondi de 68 % en Gaspésie. Une situation jugée intenable, signale Nathalie Drapeau, directrice générale de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, RITMRG, qui regroupe la ville de Gaspé ainsi que les municipalités de la MRC du Rocher-Percé. Les coûts de transport sont aussi substantiels dans une région comme la Gaspésie. Le territoire à couvrir est vaste, allant de Gaspé jusqu'à Port-Daniel, rappelle Samuel Parizé, préfet de la MRC du Rocher-Percé, en entrevue avec la presse. Depuis le 1er janvier 2026, les citoyens de la RITMRG paient une tarification incitative pour la collecte de leurs déchets résidentiels. Un changement qui vise à modifier les habitudes des plus importants générateurs de déchets dans la région, précise Nathalie Drapeau. Les déchets sont ramassés 20 fois par année sur le territoire de la RITMRG. Le tarif de base par résidence est maintenant de 350 $ par année. Selon la nouvelle grille tarifaire, les résidences qui remplissent leur bac à ordures plus de 20 fois par année paieront une surtaxe de 175 $. Les ménages qui réussiront à limiter leurs déchets et dont le bac devra être vidé 12 fois ou moins auront un rabais de 15 $ sur leur compte de taxe. Les contribuables paieront la facture par l'entremise de leur compte de taxe annuel. Depuis plusieurs années, les bacs sont munis d'une puce électronique et les camions à ordures d'un lecteur de puce, ce qui permet de comptabiliser exactement le nombre de levées de bacs pour chaque adresse sur le territoire de la RITMRG. La carotte et le bâton. Marc Olivier, un expert des matières résiduelles qui enseigne à l'Université de Sherbrooke, note d'entrée de jeu l'approche qui recourt à la fois à la carotte et au bâton. On arrive avec quelque chose de nouveau, avec une récompense pour les bons utilisateurs qu'on n'a pas vu ailleurs, dit-il. Le bâton, lui, vise les gros générateurs de déchets. Sur les quelques 15 000 résidences situées sur le territoire de la RITMRG, environ 600 maisons, soit 4 % entrent dans cette catégorie. Selon Nathalie Drapeau, beaucoup d'efforts ont été consacrés ces dernières années à encourager le recyclage et le compostage. Elle croit que la facturation est dorénavant la seule issue possible pour les récalcitrants. Il y a eu quand même une amélioration dans les comportements, mais les grands générateurs de déchets sont vraiment difficiles à faire bouger, déplore-t-elle. On a déployé tous les outils possibles et on fait un suivi assez serré. On a donné des billets de courtoisie, puis des constats d'infraction. Mais il y a des gens que tu as beau accompagner, t'as beau leur offrir tous les services possibles, ils ne se sentent pas concernés. Samuel Parizé rappelle que l'objectif n'est pas de rentabiliser la collecte des matières résiduelles, mais de limiter la hausse des dépenses. Le message, c'est que si les gens ne font pas le tri de leurs matières de façon efficace, ils vont payer pour les services qu'ils utilisent, souligne-t-il. C'est un peu le principe de l'utilisateur-payeur. D'autres changements à venir. Face à la hausse croissante des coûts de transport et d'enfouissement des déchets, l'élu gaspésien estime que les municipalités ne pouvaient maintenir le statu quo. Un constat que partage Nathalie Drapeau. La DG rappelle qu'il faut construire en moyenne 2 nouvelles cellules d'enfouissement tous les 5 ans pour répondre aux besoins. Avec une hausse du coût de 68 % pour construire une nouvelle cellule, c'est là que la cloche a sonné pour les élus, précise-t-elle. Si les gros générateurs de déchets sont les premiers visés par la nouvelle grille tarifaire, d'autres changements pourraient survenir au cours des prochaines années, signale Nathalie Drapeau. Le prochain objectif serait de réduire encore plus la quantité de déchets envoyés à l'enfouissement par la majorité des utilisateurs résidentiels, ceux qui remplissent leur bac de 360 litres entre 13 et 20 fois au cours d'une année. Rien n'a encore été décidé, affirme Nathalie Drapeau. Il faut voir d'abord comment la nouvelle mesure va porter fruit. Cela pourrait se traduire, par exemple, par une surtaxe, qui serait modulé dès qu'on dépasse les 12 bacs par année. Selon Marc Olivier, le modèle gaspésien pourrait séduire d'autres municipalités, surtout en région. Dans les grands centres comme Montréal et Québec, plus densément peuplés, les défis sont différents, précise-t-il. Tout le monde va regarder ce qui se passe là-bas pour voir si ça peut être appliqué dans d'autres régions du Québec, dit-il. C'était « Gestion des déchets, le pari de la Gaspésie », un texte d'Éric-Pierre Champagne, paru le 25 janvier 2026 dans La Presse.
Les nations autochtones du Canada mettent en garde leurs membres qui iraient aux États-Unis. Un texte de Alessia Passafium de la Presse canadienne, paru le 23 janvier 2026 dans Le Devoir. L'Assemblée des Premières Nations met en garde les Autochtones qui veulent traverser la frontière américaine contre les opérations de contrôle de l'immigration et de la détention de certains citoyens autochtones américains. La chef nationale de l'APN, Cindy Woodhouse-Népinac, a confirmé qu'au moins un membre des Premières Nations avait récemment eu une mauvaise expérience avec l'Agence américaine de contrôle de l'immigration et des douanes, mieux connue sous le nom d'ICE, et que cette personne était depuis revenue au Canada. Madame Woodhouse-Népinac a déclaré à la presse canadienne que l'APN ne divulguerait pas le nom de cette personne. Cette affaire a incité le groupe autochtone à publier une déclaration avertissant les membres des Premières Nations de s'assurer qu'ils disposent des documents et pièces d'identité appropriés lorsqu'ils franchissent la frontière. Ces actions constituent une violation de nos droits inhérents et une violation du traité Jay qui garantit le libre passage des membres des Premières Nations à la frontière, a déclaré Mme Woodhouse-Népinac. Nous appelons l'administration du président américain Donald Trump à respecter pleinement le droit des Premières Nations de traverser la frontière sans harcèlement ni entrave injustifiée. Les Premières Nations, en tant que peuples autochtones, vivaient ici sur ces terres de manière harmonieuse. Nous avons partagé ces terres, et ce n'est pas pour que des gens viennent ici nous dire comment nous devons les traverser, a-t-elle fait valoir. Le chef régional de l'Ontario, Abraham Benedict, a confirmé vendredi matin qu'il était également au courant de l'arrestation par l'ICE d'un membre des Premières Nations. Il a été renvoyé au Canada et ICE a saisi son certificat de statut d'Indien, a déclaré M. Benedict, qui est coprésident de la Jay Treaty Alliance, un organisme représentant les gouvernements tribaux et les communautés des Premières Nations des deux côtés de la frontière. Il a eu de la chance de ne pas avoir eu d'autres interactions négatives avec eux et de ne pas avoir été placé dans le système de déportation. La dernière chose que nous voulons, c'est qu'un de nos citoyens des Premières Nations se retrouve dans un centre de détention et doivent passer par tout ce processus fastidieux qui peut être très intrusif et franchement inutile. La presse canadienne a contacté le bureau de la ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Lina Diab, pour obtenir ses commentaires. Avertissement. La Première Nation Kaskasiwan, dans le nord de l'Ontario, qui a dû être évacuée plus tôt ce mois-ci, à la suite de la défaillance des réseaux d'aqueducs et d'égouts, a publié un message sur les médias sociaux demandant aux résidents évacués vers Niagara Falls, en Ontario, de s'abstenir de franchir la frontière vers Buffalo, dans l'État de New York. Pour la sécurité des personnes évacuées vers Niagara Falls, la Première Nation Kaskasiwan a adopté une motion ordonnant à ses résidents de rester du côté canadien de la frontière pendant cette période, sur ordre du chef et du conseil, a mentionné la Première Nation. Cette décision est motivée par le contexte politique actuel et le renforcement des contrôles aux États-Unis, a-t-elle ajouté. La Première Nation, Mississauga, a également mis en garde ses membres contre le franchissement de la frontière, évoquant la récente détention de personnes autochtones par les services de l'immigration et des douanes des États-Unis. Plus tôt cette année, trois membres de la tribu Oglala Sioux ont été interpellés dans un campement de sans-abri par des agents de l'ICE au Minnesota. Des représentants élus de la nation Navajo avaient indiqué en 2025 que des membres de leur tribu en Arizona et au Nouveau-Mexique avaient signalé avoir été arrêtés et détenus par des agents de l'ICE. En novembre 2025, une membre de la communauté indienne Salt River, Pima Maricopa, en Arizona, arrêtée dans l'Iowa, devait être expulsée avant que l'erreur ne soit corrigée et qu'elle ne soit libérée. Le même mois, Elaine Miles, membre des tribus confédérées de la réserve indienne d'Umatilla dans l'Oregon et actrice connue pour ses rôles dans Bienvenue en Alaska, Northern Exposure et The Last of Us, a indiqué avoir été interpellée par des agents de l'ICE dans l'État de Washington qui lui ont affirmé que sa carte d'identité tribale semblait fausse. Le chef et le conseil de la Première Nation de Mississauga condamnent fermement ces actions. Les membres qui se rendent aux États-Unis sont priés de prendre des précautions supplémentaires et de s'assurer que leurs papiers d'identité sont à jour, a écrit la Première Nation de Mississauga en Ontario sur les réseaux sociaux. L'ICE n'a pas immédiatement répondu à une demande de réaction. Plusieurs autres Premières Nations ont publié des avertissements similaires, notamment les six nations de la rivière Grand près de Hamilton, en Ontario, et la Première Nation de Garden River près de Sault Ste. Marie. Le territoire Mohawk de St. Regis, qui s'étend sur les frontières de l'Ontario, du Québec et de l'État de New York, a conseillé à ses membres de toujours avoir leur papier d'identité sur eux et d'appeler la police tribale en cas de contact avec ICE. Une traversée de la frontière plus ou moins simple. Pour le grand chef du conseil Mohawk de Kanawaki, Cody Diabo, qui est également coprésident de l'Alliance frontalière du traité de Jay et membre du caucus Iroquois, il est important que les Autochtones soient bien informés et munis de papiers d'identité valides lorsqu'ils traversent la frontière. Le traité de Jay, signé en 1794 entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, visait à garantir la libre circulation des peuples autochtones à la frontière. Le Canada ne reconnaît pas ce traité, contrairement aux États-Unis. Ainsi, les membres des Premières Nations du Canada, ayant au moins 50 % de sang autochtone, peuvent vivre et travailler aux États-Unis avec leur carte de statut des Premières Nations et une lettre détaillant leur histoire familiale. Les Canadiens non autochtones, quant à eux, doivent présenter leur passeport au point de passage frontalier et suivre une procédure d'immigration différente. Selon M. Diabo, les craintes accrues suscitées par les actions agressives de ICE compromettent des relations de longue date antérieures à la fondation des deux pays. Je suppose que nous sommes victimes de profilage racial parce que nous avons la peau et les cheveux plus foncés. Il est donc plus facile de nous repérer dans la foule et de dire « Je pense que c'est un immigrant illégal ». A avancé, le chef autochtone québécois, interrogé sur les actions d'ICE contre les Autochtones. Le paysage géopolitique est en pleine mutation, c'est certain. Nous devons nous adapter, défendre nos droits et faire pression là où c'est nécessaire, mais en toute sécurité, sans nous mettre en danger, a-t-il ajouté. L'Alliance du traité de Jay encourage les membres des Premières Nations qui traversent la frontière américaine à s'assurer d'avoir sur eux leur lettre de filiation familiale, leur carte de statut, leur acte de naissance complet et une pièce d'identité officielle avec photo. De l'autre côté de la frontière, les membres des tribus américaines sont encouragés à se déplacer avec leur carte d'identité tribale, une pièce d'identité ou un permis de conduire délivré par leur État ou un passeport américain. C'était « Les nations autochtones du Canada mettent en garde leurs membres qui iraient aux États-Unis ». Un texte de Alessia Passafiume de la Presse canadienne, paru le 23 janvier 2026 dans Le Devoir.